VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel, 33 militants arrêtés pour avoir réclamé la convocation de la présidentielle pour élire le successeur du président Joseph Kabila ont été remis en liberté par le parquet de Goma, c'est dans l'est de la République démocratique du Congo. Les 33 activistes des militants de Lucha, lutte pour le changement, ont été libérés le 3 octobre tard dans la nuit par le parquet de grande instance de Goma sans être inculpés. Ils n'ont versé aucune caution, a déclaré à l'AFP l'un de leurs avocats, Maître Mathieu Mugisho. Au Tchad, le président Idriss Déby a limogé de hauts responsables politiques et militaires dans le nord du pays. C'est en marge d'une visite dans la région. Eric Manirakiza.
Idriss Déby Itno a remplacé le gouverneur, le préfet et le commandant d'une zone militaire de la région du Borku-Enedi-Tibesti dans la ville de Faya-Larjo. Cette décision intervient pendant que plane le spectre d'une rébellion aux confins Tchad-Libye. Mi-août, des éléments de l'armée tchadienne ont été attaqués et plusieurs tués non loin de la frontière avec la Libye. Le dispositif sécuritaire a été renforcé dans l'extrême nord du Tchad. Le chaos en Libye a favorisé la naissance de toutes les rébellions au nord. La région du Borku est devenue le lieu de toutes sortes de trafics. Depuis lundi, le président tchadien mène une campagne de sensibilisation pour engager les notables de la région à ne pas se laisser séduire par les sirènes de la rébellion. La ville de Faya-Larjo abrite également une base avancée de l'armée française, aujourd'hui rattachée à la force Barkhane, qui lutte contre les djihadistes.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, se rendra en Centrafrique d'ici à la fin du mois d'octobre pour consolider le partenariat entre l'ONU et le pays ravagé par les violences. Aucun détail n'est pour l'instant disponible sur le jour et le programme de la venue en Centrafrique de M. Guterres, qui va effectuer ainsi sa première visite d'une opération de maintien de la paix depuis sa prise de fonction début 2017. Des milliers de Togolais ont manifesté jeudi à Lomé et en province dans un climat tendu au deuxième jour de marche pour réclamer des réformes et protester contre le régime de Faure Gnassingbé qui fait face à une importante contestation populaire depuis plus d'un mois. Depuis la fin du mois d'août, c'est la 7e grande journée de manifestation organisée par l'opposition pour obtenir des réformes constitutionnelles et le départ du président Gnassingbé. Le commandement militaire américain pour l'Afrique a confirmé jeudi que 3 de ses hommes ont été tués au cours d'une opération antiterroriste menée conjointement avec les forces nigériennes à quelques 200 km au nord de la capitale Niamey. Le gouvernement nigérien, a également confirmé jeudi soir que 4 de ses soldats avaient été tués et 8 blessés aux côtés des militaires américains, donnant des détails sur l'embuscade. Selon un communiqué du Pentagone, une autre personne d'un pays non cité a également été tuée. Fin de la réunion à Paris des ministres des Finances de la zone franc, les participants ont assuré ne pas avoir parlé d'une éventuelle réforme du franc CFA. Selon Amadou Ba, ministre sénégalais des Finances, son homologue français Bruno Le Maire a balayé d'un revers de la main une éventuelle dévaluation du franc CFA. Sur le continent, le débat se poursuit. Sortie ou ne pas sortie de la zone franc, Idriss Fall a recueilli l'avis du professeur Abdoulaye Diagne. Il est directeur du CRES, le consortium sur la recherche économique au Sénégal.
Le problème, c'est de savoir si c'est dans leur intérêt de le faire. Si je devais donner une réponse claire, je dirais que non. C'est une institution, si je puis dire, qui date de 70 ans. Ce n'est pas une raison pour dire qu'on doit la jeter aux orties. Cela prouve aussi que cette institution a une capacité à survivre, à faire face à un certain nombre de défis.
Les opposants disent que 50% des avoirs sont déposés à la Banque centrale de France. C'est une perte de souveraineté nationale, c'est une monnaie coloniale.
Si vous avez votre propre monnaie, cette monnaie ne peut être utilisée qu'à l'intérieur des frontières de votre pays. Si vous voulez acheter à l'extérieur, il vous faut des devises convertible. Pour avoir ces devises, vous devez exporter ou emprunter. C'est ce que font tous les pays du monde. Si vous empruntez, vous devez donner des garanties. Vous avez votre monnaie nationale ou pas. Un emprunt a toujours une garantie derrière. Ce n'est pas là le problème. Si c'était des ressources qui étaient gelées au trésor, qui ne pouvaient pas être utilisées tout simplement parce qu'elles seraient là à des fins de garantie, on aurait compris. Mais ce n'est absolument pas le cas. La BCAO, comme la BAC, gère ce type de compte de façon active, à savoir qu'il y a des dépôts, qu'il y a des retraits. C'est une sorte de compte d'épargne. Alors qu'il y a d'autres comptes qui sont ouverts auprès d'autres banques centrales ou bien des banques commerciales pour la gestion courante. Je ne vois vraiment pas quel est le problème majeur ici.
Quand la CEDEAO se fixe comme objectif 2025 pour arriver à la monnaie unique, vous pensez que c'est possible ça?
C'est un autre débat. Si nous restions sur la question du franc CFA, je pense que le problème qui vaille vraiment la peine d'être posé, c'est le problème de la parité du franc CFA et de l'euro. Est-ce qu'on doit avoir une parité ou bien on doit avoir un taux de change flexible? Je pense que l'introduction d'une flexibilité dans le taux de change serait un pas important. Maintenant, pour ce qui concerne la monnaie ouest-africaine, l'alternative crédible, sérieuse à la zone franc, c'est la création d'une zone monétaire ouest-africaine où vous aurez non seulement les pays de l'UEMOA, mais aussi les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Nigeria et le Ghana. Je pense que si on arrivait à mettre en place cette zone, il n'y aurait plus de raison de rester dans la zone franc. Techniquement, c'est possible. Économiquement, c'est viable. Ce qui manque, c'est une volonté des dirigeants. Et je crois que c'est de ce côté-là qu'il faut voir les difficultés, les problèmes.
Abdoulaye Diagne, directeur du consortium sur la recherche économique au Sénégal. La mission des Nations Unies présente en Haïti depuis plus de 13 ans a été officiellement close jeudi au lendemain du départ de la MINUSTA. La mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, la MINUJUST, va prendre le relais pour continuer la formation de la police haïtienne. Cette nouvelle mission comptera au total 1275 policiers étrangers et est destinée à être graduellement réduite sur 2 ans. Au moins 14 civils, dont 3 enfants, ont été tués dans des frappes russes près d'une ville tenue par le groupe djihadiste État islamique dans l'est de la Syrie, a indiqué aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahman, a précisé que les civils tués dans la nuit de jeudi à vendredi fuyaient le village de Makhan, au sud de Mayadine, un fief de l'État islamique situé à 420 km au nord-est de Damas.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ici à Washington, il est 7:07. Le prix Nobel de la paix a récompensé aujourd'hui la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, ICAN, pour ses efforts contre ces armes de destruction massive au cœur des tensions internationales en Iran et en Corée du Nord. Regroupant plusieurs centaines d'ONG, l'ICAN s'est mobilisé pour le traité d'interdiction de l'arme atomique adopté par 122 pays le 7 juillet à l'ONU. Ce Nobel survient alors que le président Trump doit certifier avant le 15 octobre auprès du Congrès américain que Téhéran respecte les engagements pris dans le cadre de l'accord historique de 2015. Celui-ci impose de strictes restrictions au programme nucléaire iranien en échange d'une levée de sanctions. Le président américain a affirmé jeudi que l'Iran n'avait d'ailleurs pas respecté l'esprit de l'accord sur le nucléaire. La déclaration de Donald Trump intervient donc à quelques jours, je l'ai dit, très attendu sur la certification du respect par Téhéran des termes de cet accord. La Maison-Blanche et des élus républicains se sont dit prêts à discuter d'une interdiction des mécanismes transformant les fusils semi-automatiques en fusils automatiques, un dispositif qui a permis aux tueurs de Las Vegas de multiplier le nombre de victimes et que le puissant lobby des armes à feu, NRA, souhaite aussi réguler. Après des décennies de résistance, le Parti républicain pourrait ainsi faire un petit pas en direction des démocrates sur le sujet sensible de l'encadrement des armes individuelles, même si cela resterait largement symbolique et qu'une réforme en profondeur est encore loin. Et puis, le patron des affaires humanitaires à l'ONU, Mark Lowcock, a jugé aujourd'hui inacceptable le manque d'accès des humanitaires dans l'État Rakhine, en Birmanie, d'où plus d'un demi-million de réfugiés rohingyas ont fui les violences depuis fin août. Nous avons besoin d'un accès sans entrave. L'accès que nous avons dans l'État Rakhine est inacceptable, a déclaré M. Lowcock lors d'une conférence de presse aujourd'hui donc à Genève. Fin de ce journal, le prochain dans 50 minutes avec Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Oui, oui.